IDFM Radio, le média valdoisien.
Et c'est Éléanore Forchaud qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous êtes arbitre international. Vous êtes rameuse aussi depuis une trentaine d'années.
C'est ça, on ne veut pas dire l'âge.
L'aviron, c'est une passion qui vous anime grâce, entre autres, à votre frère.
Oui.
Qui vous a transmis en quelque sorte le flambeau.
C'est exactement ça. Quand mon frère était, ouais, il avait 11-12 ans, et puis il fallait le mettre au sport. Et étant d'origine britannique, l'aviron était un sport qu'on connaissait, et même si c'est pas très très connu en France. Et puis voilà, forum des associations, et puis voilà, mon frère a commencé, et puis j'ai suivi parce que j'étais grande, et le coach m'a dit: ah, mais elle est grande ta sœur, elle veut pas venir faire de l'aviron. Et puis donc je suis
ça vous a plu tout de suite, ou vous avez été un petit peu hésitante?
Non, tout de suite, il y avait un bon groupe, c'était chouette.
Vous faisiez déjà du sport auparavant?
J'ai fait de l'athlétisme au stade des Maradas pendant quelques années, et puis après j'ai fait du kayak parce que ma mère m'a dit: mais attends, il faut quand même que t'aies un peu des muscles dans les bras pour tirer sur les avirons et faire avancer un bateau. Donc elle m'a mis au kayak, et puis en fait j'ai pas trop aimé le kayak, mais l'aviron du coup c'était nettement mieux. Voilà.
Vous avez vécu à Pontoise longtemps?
Je suis née à Pontoise et j'ai grandi à Cergy, pour le coup, donc juste à côté. Et j'ai toute ma vie là-bas, en tant qu'adolescente, jusqu'à ce que je parte à l'université en Angleterre, pour le coup.
Vous avez fait partie d'un club d'aviron.
Absolument.
Société Nautique de l'Oise, SNO.
C'est ça.
C'était entre l'Oise et le Val d'Oise.
Exactement.
Parce qu'effectivement, il n'y a peut-être pas forcément de plan d'eau sur le Val d'Oise pour s'entraîner.
Non.
Pour pratiquer.
Alors, il y a, donc effectivement, on rame sur l'Oise.
Il y a peut-être le lac d'Enghien-les-Bains, mais
Le lac d'Enghien.
Le
lac d'Enghien est un peu petit, mais à organiser, c'est des compétitions par le passé. Effectivement, j'ai ramé au moins deux fois sur ce lac en compète. Mais sinon, ouais, donc c'est sur l'Oise, entre Saint-Ouen-l'Aumône à peu près et ça va jusqu'à l'Isle-Adam. Et quand la l'Oise est en crue ou très froid ou quoi, on pouvait aller sur la base de loisirs. Donc on a fait ça de temps en temps, et puis il y avait aussi des compètes sur la base de loisirs également, une fois tous les deux ans, quelque chose comme ça.
Et aujourd'hui, donc, c'est pas tout à fait fini, c'est quand même là l'avion.
Mais
vous me disiez en antenne que vous avez arrêté, votre dernière fois c'était en 2022.
Oui, c'est ça. Bon, l'aviron c'est un sport magnifique, mais qui prend quand même énormément de temps, et j'avoue que le temps commence à être un petit peu plus court. Il faut faire le choix parfois entre arbitrer et ramer. Alors même si j'ai au moins un collègue de l'arbitrage qui arrive à combiner compétition et arbitrage, moi je me dis bon. Je crois que j'ai suffisamment donné de mon temps dans ce sport, au moins pour la partie vraiment monter en bateau et faire des compètes.
Vous avez eu 4 podiums, en gros, c'est ça?
Oui, j'ai eu 4 podiums, c'est ça.
1, 2, 3 à chaque fois.
J'ai jamais été championne de France. J'ai été vice-championne de France 3 fois. Et une médaille de bronze également.
En solo ou en équipe?
Non, en équipe. Alors pour moi, l'aviron, c'est vraiment un sport d'équipe. Donc,
parce que ça se pratique des deux façons.
Ça se pratique tout seul, effectivement. C'est ce qu'on appelle le skiff ou le 1 de couple. Et moi,
merci pour ces termes très techniques.
et sinon, moi, j'étais plutôt en... Alors, la première médaille, c'était en 8, en 8 féminin. Et la deuxième, les deux autres, c'était en 4 de couple. Donc, c'est vraiment le bateau que je préfère. Et la dernière de bronze, c'était en 2 de couple. Et c'était en catégorie master. Donc, on est vieux à l'aviron, plus de 27 ans. Donc, j'ai commencé à avoir des médailles en catégorie un peu plus vieille. Voilà.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette discipline? Qu'est-ce qui vous plaît toujours?
C'est
de pouvoir naviguer sur l'eau, de pouvoir affronter cette force.
Non, il y a plusieurs choses. Pour moi, c'est vraiment le travail d'équipe, d'être avec se retrouver avec des copines sur l'eau et avancer ensemble sur un bateau. Et puis moi, je suis très très nature, donc j'aime beaucoup naviguer dans des beaux endroits. Et du coup, sur l'Oise, en tout cas, c'est vrai que c'était très beau et j'ai des souvenirs du dimanche matin embrumé 8h du matin. Il y a personne, on est seul au monde. Entendre l'eau glisser sous le bateau, juste le bruit du bateau qui avance, pas un bruit dans le bateau en soi, on se parlait pas, c'était vraiment juste à l'écoute des sensations, ça c'est des souvenirs extraordinaires, ouais. Donc c'est vraiment un sport qui me prend par les tripes, ouais.
Vraiment. À la maison, vous avez toujours un bateau ?
Ah non, c'est long. C'est long et c'est un peu lourd. Donc c'est
ouais. Oui, il faut avoir de l'espace.
Et ouais, faut avoir un peu d'espace, ouais. Non, c'est tout ça est rangé dans des hangars, des gros hangars.
Mais vous aviez en tout cas votre propre bateau.
Non, c'était en fait, il y a certaines personnes qui ont leur propre bateau, mais généralement on bénéficie, quand on est licencié d'un club, on bénéficie des installations du club et de leur bateau. Et donc c'est eux qui disent bon ben voilà, aujourd'hui tu vas monter en 8 avec ces personnes-là et vous faites ce programme-là, et voilà. Donc on n'a pas notre bateau, on n'achète pas, ça coûte très cher en plus, mais on n'a pas nous notre bateau et c'est les équipements du club qui sont mis à disposition.
Où auront lieu cette année les épreuves d'aviron pour les JO?
C'est à Vers-sur-Marne. C'est un bassin qui existe depuis longtemps et qui a d'ailleurs déjà accueilli, je crois que c'était en 96, championnat du monde d'aviron de ce côté-là. Donc ce bassin existe depuis un petit moment. C'était l'avantage des JO de Paris. Je crois qu'ils ont réutilisé quand même pas mal d'installations déjà existantes. Donc creuser un bassin d'aviron, ça coûte beaucoup d'argent et ça prend beaucoup beaucoup de place parce qu'il faut un minimum de à peu près 2500 mètres de long et une grande, alors je n'ai plus les dimensions exactes en tête, mais bon, il faut quand même pas mal de place, donc c'est bien qu'il soit déjà préexistant.
C'est vos premiers jeux? Non? Oui?
Si, à l'aviron, on a le quand on est nommé sur les JO, c'est une fois dans sa vie. Donc c'est vraiment la seule occasion que j'aurai d'assister aux JO, sauf si je me remets à l'aviron, mais ça me paraît compliqué.
C'est une fierté. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Ah, c'est génial. Je m'y attendais pas si vite. Mais c'est oui, c'est une grande grande fierté, très clairement.
C'est le travail aussi qui a fait qu'aujourd'hui vous en êtes là aussi.
C'est le travail, c'est l'expérience, c'est être présent sur pas mal de compétitions. En fait, il faut une sorte de progression dans les compétences. Donc, quand on a sa licence, quand on devient arbitre international, il faut faire ses preuves entre guillemets. Et donc, on commence généralement par soit des coupes du monde qui sont à l'aviron, qui sont des régates beaucoup plus petites que ce qu'on peut imaginer pour la Coupe du Monde de foot, par exemple, où c'est vraiment le Graal. À l'aviron, la Coupe du Monde est un niveau beaucoup moins élevé. Donc on commence par des Coupes du Monde et des championnats d'Europe. Ça peut être championnat d'Europe junior, moins de 23 ans, ou senior. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait au moins une de chacune de ces épreuves, ensuite on passe sur les championnats du monde, donc moins de 19 ans, moins de 23 ans et ensuite senior. Et une fois qu'on a fait un championnat du monde senior, là on peut se dire bon bah ok, je peux potentiellement mettre ma candidature pour les JO. Mais donc tout ça, c'est un événement par an maximum. Donc si on comptabilise un peu toutes les étapes qu'il faut faire, voilà, il y a au moins 10 ans d'expérience internationale avant de pouvoir se dire ok, bah là je peux postuler pour les JO.
Bravo. On se retrouve dans un instant sur IDFM Radio, toujours avec Éléonore. Non, c'est pas Éléonore, c'est Éléanor, hein, c'est original.
Voilà, c'est la version anglaise.
Éléanor Forchaud, arbitre international, donc du 27 juillet au 3 août pour les Jeux Olympiques. Et ensuite, on va reparler des Jeux Paralympiques. Là, vous serez bénévole à partir du 30 août. IDFM Radio, un nouveau point sur la circulation en Ile-de-France, surtout du côté de vos transports en commun, puisque demain, un gros mouvement social sur la ligne A du RER. Et puis, on fera aussi une nouvelle fois un petit point sur vos dernières informations valdoisiennes. Nous écoutons maintenant Imagine Dragons. I can do this with my eyes closed. Back of my head, been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair, been taking every whip and word I've never been spared. This is La matinale sur IDFM Radio avec une nouvelle invitée à découvrir depuis quelques minutes. Nous sommes avec Eleanor Forchaud, arbitre international, et vous participez aux Jeux Olympiques Paris 2024. Donc vous nous rappelez où vont avoir lieu les épreuves pour l'aviron.
À Vers-sur-Marne.
Donc ça reste en Île-de-France.
Oui. Ouais, ça reste, c'est Île-de-France. Bah c'est vers Lagny. Pas loin de Lagny, voilà.
Là, il y a un plan d'eau suffisamment grand et agréable pour les rameurs qui vont participer aux JO.
C'est ça. Agréable, je ne sais pas, parce qu'il est connu pour être un peu venteux, mais on va voir ça.
Donc, vous, c'est à partir du 27 juillet jusqu'au 3 août pour les Jeux Olympiques. Et après, vous serez bénévole pour les Jeux Paralympiques à partir du 30 août.
C'est exactement ça.
Quelle est la différence? Le salaire?
Oui, absolument. Non, on est bénévole sur tout, en fait. C'est l'avantage de l'aviron, c'est qu'il n'y a pas forcément d'argent à se faire dans ce sport. Non, au niveau de l'arbitrage, ça ne change absolument rien. Entre ce qu'on appelle les valides et les paras, il y a juste des différences de poids de bateau, des différences dans les épreuves qui sont présentes. Et évidemment, les rameurs en soi, donc sont évidemment parfois en chaise roulante ou en, j'ai toujours en tête un Mexicain qui n'a pas de jambes mais qui se déplace sur un skateboard, donc c'est toujours assez c'est vraiment quelque chose de voir tous ces athlètes arriver sur ce bassin et non, sinon en termes d'arbitrage il n'y a aucune différence. Il y a les poids des bateaux, donc c'est quelque chose qu'on doit vérifier, donc il faut qu'on connaisse les poids des bateaux paralympiques, mais sinon non, tout reste identique. Il n'y a pas de différence entre les valides et les paras pour nous.
Je le reprécise, vous avez fait de l'aviron.
Oui.
Pas en mixte, hein.
Non, pas
en
mixte.
Féminine. Ouais. Ça existe ou pas? Oui.
Oui, ça existe. C'est un sport qui s'y prête très bien, d'ailleurs. Je me souviens avoir ramé, du coup, en équipage mixte, plus récemment. C'est vrai, quand j'ai commencé, c'était plutôt vraiment fille d'un côté, garçon de l'autre. Mais plus récemment, je sais plus ça doit faire peut-être 5-6 ans maintenant que les équipages mixtes existent en compétition. Et je me souviens avoir fait ce 8 mixte où on disait quand même, c'est vachement bien de ramer avec les garçons, et les garçons nous disaient, c'est quand même vachement bien pour nous de ramer avec les filles, avec les filles aussi. Et c'est vrai qu'en comparant les chronos, on se rendait compte que le 8 mixte allait plus vite que le 8 garçon. Donc c'était quand même assez plaisant.
Il y a beaucoup de femmes?
Il y a pas mal de femmes, ouais. Il y a environ 40% de femmes, de femmes pratiquantes, et à peu près entre 30 et 35%, voire un peu plus, de femmes arbitres aussi.
Sur les Jeux, on découvrira autant de femmes que d'hommes?
Exactement. C'est une grosse pression du CIO, du coup, d'être à parité totale entre les athlètes. Donc on a autant d'épreuves féminines que d'épreuves masculines. Ouais.
Vous allez les juger sur quoi? Il y a des règles précises comme jeu,
ouais,
comme toute compétition. Donc vous serez sur l'eau aussi, sur un bateau particulier?
Ouais, je vais pas les suivre en bateau d'aviron parce que je vais pas aller assez vite. Mais non, en fait on est un groupe de 18 arbitres sur ces JO. Donc on représente plein de nations et de continents différents. On est parité homme-femme également, et on va réaliser 5 rôles principaux. Donc il y a une partie, on va vraiment vérifier l'identité des concurrents avant qu'ils aillent sur l'eau, vérifier les équipements de sécurité des bateaux. Donc on a surtout un point très important, c'est là, il y a une sorte de boule de protection à l'avant du bateau pour éviter tout abordage et accident assez grave, en fait. On a aussi le poids des rameurs, on a le poids des barreurs et on a le poids des bateaux à vérifier. Ensuite, sur la zone de départ, on a la personne qui va juger est-ce qu'un départ est correct ou non, est-ce qu'il y a eu un faux départ, et attribuer la faute du faux départ. On a la personne qui va donner le départ, donc toute la gestion du temps sur la zone de départ, le protocole, l'appel des équipages, l'annonce des sanctions si jamais mais il y en a.
C'est quoi le type de sanction, par exemple?
Type de sanction, ça peut alors ce qu'on appelle un yellow card ou un red card. Donc c'est carton jaune et carton rouge. On s'est vraiment inspiré du foot et c'est donc carton jaune, c'est ce qu'on appelle un avertissement en français. Ça peut être un retard au départ, ça peut être une infraction aux règles de circulation, ça peut être jeter des bouteilles. Voilà, on veut se délester de tout poids, de tout ce qui peut bouger dans le bateau. Donc il y a des personnes qui jettent leurs bouteilles au niveau du départ. Ben c'est polluant, donc pareil, ça c'est carton jaune. Donc là, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on peut sanctionner les équipages.
La plus grosse faute que vous ayez vue?
La plus grosse faute, c'est pas vraiment des fautes en fait, c'est arriver au départ en retard et faire un faux départ en fait. Donc voilà, on a deux sanctions et au revoir quoi.
Ça existe le dopage?
Il y a beaucoup de contrôles antidopage. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de dopage à l'aviron. Non. Après,
et au niveau du bateau, le bateau doit avoir aussi un poids précis, particulier.
Il y a un poids minimum, effectivement. Donc, on doit connaître les poids de toutes les différentes catégories. Donc, on a le skiff, le double, le 200 barreur, le 400 barreur, le 4 de couple et le 8.
Donc, avant de les surveiller sur l'eau, vous pesez éventuellement le bateau. Ça fait partie aussi de vos missions.
Alors, on les pèse après. Parce que donc, ils font leur course et ils sont tirés au sort pour peser leur bateau, et si leur bateau est en dessous du poids minimum, ils sont relégués pour le coup. Donc on peut être champion olympique et avoir un poids de bateau qui est juste en dessous du poids réglementaire minimum, et en fait on est relégué à la dernière place. Donc on peut être champion olympique et en fait ne pas être champion olympique parce que notre bateau n'est pas au poids. Donc c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux par tous les équipages, à vraiment vérifier. Ils peuvent vérifier le poids de leur bateau avant de partir sur l'eau. Et donc on les encourage à le faire et surtout à ne pas jouer en fait, d'avoir au moins 500 grammes ou 1 kilo en plus, parce que le poids du bateau en plus peut varier selon est-ce qu'il fait chaud ou pas, l'humidité, etc. Ça peut, comme les bateaux sont des fibres de carbone, en fait il y a une histoire de contraction de la fibre, de dessèchement, enfin il y a plusieurs critères qui font que le poids du bateau peut changer. Donc oui, on a tout ça, c'est à faire plutôt au débarquement des équipages.
Il y a de sacrées règles. Hein. Vous mettez un peu la pression, pas là, à l'approche des Jeux Olympiques.
Non, en fait, je réalise pas encore. Parce que je connais bien le bassin de Vers-sur-Marne et je n'imagine pas encore du tout revêtu de ces habits de fête de Paris 2024. Et alors là, je commence peut-être, parce que je commence dans les transports à entendre site Paris 2024.
Oui, depuis déjà quelques semaines.
Je commence à voir les étiquettes un peu partout dans le tram, dans le métro. Je me dis, ah ouais, c'est vrai que ça arrive en fait, c'est bientôt. Et je commence à me dire, ouais, c'est bien de se mettre bien dans le bain. Et ça, mais je réalise pas encore tout à fait, ouais.
Vous l'avez appris en octobre dernier?
Oui.
On vous appelle, on vous envoie un mail?
Non, pas du tout. C'est une copine qui m'a envoyé une copie. Je sais pas comment elle a eu une copine des Philippines qui m'envoie une photo et qui me dit félicitations. Je dis mais de quoi tu me parles? Et je vois le truc, je dis ah ouais, c'est sorti en fait, et j'étais pas au courant. Donc moi je l'ai su quelques heures plus tard par les canaux officiels par ma fédération. Mais oui, de base c'était des amis qui m'ont félicité en avance de phase.
Ça peut donner des points supplémentaires. Dans 4 ans, on peut éventuellement vous voir sur les prochains.
C'est une fois dans sa vie.
Ah, c'est une seule fois dans sa vie.
C'est une fois dans ma vie. Ouais, c'est une fois dans ma vie. Donc après peut-être que les règles vont changer, mais alors pour le coup, c'est vrai qu'à Los Angeles, il va y avoir deux épreuves d'aviron. Donc il y aura à la fois l'épreuve qu'on va avoir à Paris. La particularité, c'est qu'ils ont un lac qui ne fait pas tout à fait la dimension standard. Donc il va être une compétition, au lieu d'être sur 2000 mètres, elle sera sur 1500 mètres. Et en parallèle, ils ont ajouté ce qu'on appelle les beach sprints. Donc c'est de l'aviron de mer et qui donc avec un départ de plage. Et donc ça va être une nouveauté aviron qui va être ajoutée au programme de LA 2028. Et on nous a dit que ce ne sera pas forcément les mêmes arbitres qui vont arbitrer les deux épreuves. Donc potentiellement, voilà, il faut que je me recycle. Il faut que je monte en compétence sur l'aviron de plage. Voilà.
Vous avez déjà vu votre tenue aussi ou pas? Tous
Alors,
les arbitres seront habillés plus ou moins pareil?
Tous les arbitres de toutes les épreuves sont habillés pareil. Et on a aussi les arbitres bénévoles qui sont habillés de la même façon aussi. Alors je les ai vus. J'avais pas le droit de prendre de photos ni rien, donc je n'ai pas de. Mais oui, je les ai vus. Et il faut que je les récupère. On peut les récupérer à partir du 1er juillet à Porte de Versailles.
Votre entraîneur serait fier de vous, votre premier entraîneur, et Guy Joanneau.
Ah bah oui, Guy. J'espère qu'il nous écoute. J'espère qu'il nous écoute. Oui, il est très fier. Ce qui est drôle, c'est que Guy.
Vous le revoyez de temps en temps.
Oui. Bah, au club, il est souvent au club. C'est le père de la présidente du club actuel. Et donc, il est régulièrement au club. Et puis, c'est vrai qu'on se croise avec grand plaisir. Et lui, il était arbitre au JO d'Athènes. Voilà. Donc, c'est assez symbolique que, voilà, 20 ans plus tard, c'est moi qui soit arbitre à Paris. Voilà.
Bravo, merci encore d'être passé aujourd'hui sur IDFM Radio. Éléanore Forchaud, arbitre internationale. L'aviron, le reprécise, j'ai pas bien retenu où vont
c'est
avoir lieu les.
Essenoise. Alors mon club c'était la Essenoise.
Non, ça
et
c'était bon.
Vers-sur-Marne.
Voilà. Vers-sur-Marne, on pourra voir tous ces rameurs, rameuses à partir du 27 juillet pour les Jeux Olympiques. Oui, ça démarre première épreuve 27 juillet.
Ouais, c'est ça. C'est la première semaine effectivement. Ouais.
Et puis ensuite vous serez sur les Jeux Paralympiques à partir du 30 août.
Exactement.
Il y a combien d'équipes au total?
Excellente question, je ne sais pas.
Aucune idée. Mais ils sont beaucoup à travers le monde à faire de l'aviron.
En fait, il faut, alors, pour être qualifié au JO, il faut effectivement passer par ce qu'on appelle des régates de qualification. Et la dernière régate de qualification olympique a eu lieu à Lucerne, en Suisse, la semaine dernière, et j'y étais. Donc, ça fait partie de ma préparation que je me suis auto-imposée. Hein. Je me suis dit, je vais aller quand même faire des régates en tant que bénévole sur ces grosses compétitions internationales. Et donc, en fait, aux Jeux Olympiques, il y a un quota max. Je crois qu'il n'y a que 8 qui peuvent être présents. Donc, il y a vraiment 8 places. Et bah, du coup, c'est la bataille pour décrocher son sésame, pour accéder aux JO. Et donc c'est la même chose dans toutes les catégories. J'avoue que je ne sais pas, je sais qu'il y a 8 à peu près, mais les autres catégories je ne sais pas. Mais en tout cas c'est vraiment la crème de la crème qu'on va avoir au JO.
Merci beaucoup en tout cas pour tous ces détails. Merci un petit peu de nous avoir parlé de votre parcours. Éléanore Forchaud, vous retournez à Pontoise là? Non, parce que vous avez de la famille toujours sur Val d'Oise.
Là je vais au bureau. Là je vais être à la
Oui, parce que vous êtes chargée de projet RH aussi à
exactement,
côté.
Exactement, exactement. Ouais, c'est pas,
on n'a pas trop parlé de ça parce que c'était pas le but notre échange du jour. Mais
pour le coup, c'est absolument pas une passion qui est rémunérée. Donc, c'est vraiment en plus du travail quotidien. Voilà.
Merci encore.
Mais je vous en prie.
Vive les jeux.
C'est ça, vive les jeux. Absolument.
Il est à 8h53 sur IDFM Radio. C'est quoi un homme?